Lorsque je me réveillais, ce fut dans une pénombre rouge au son de l'eau qui coulait goutte à goutte. Cela sentait les égouts, le moisi et l'ozone des câbles en fibre optique sanguine. Je n'avais ouvert qu'un œil. Nous nous trouvions dans un lieu au plafond bas qui ressemblait plus à une caverne qu'à une pièce d'habitation, avec des câbles qui serpentaient le long de voûtes effritées et des flaques d'eau qui stagnaient sur des dalles à moitié recouvertes de boue visqueuse. La lumière rouge provenait du fond de la caverne, peut-être d'un puits de maintenance ou d'une galerie pour les automécas. Je me mis à gémir sourdement. Johnny était à mes côtés, sur les couvertures qui nous servaient de lit sommaire. Il tourna vers moi un visage maculé de suie ou de graisse, saignant à plusieurs endroits.
« Où sommes-nous ? » demandai-je.
Il me toucha la joue. Puis il m'entoura la taille de son autre bras et m'aida à me redresser. Tout tourna autour de moi et je crus que j'allais vomir. Johnny me tendit un gobelet de plastique et me fit boire un peu d'eau.
« Dans la ruche des poisses, » me dit-il.
Je l'avais deviné avant même de reprendre tout à fait conscience. La ruche des poisses est le puits le plus profond de l'Usus, débouchant sur un impossible dédale de galeries de Mecca et de refuges clandestins fréquentés par tout ce que le Retz compte de proscrits et de hors-la-loi. C'est dans la ruche des poisses que j'ai été blessé il y a plusieurs années et j'ai gardé la cicatrice du laser au-dessus de ma hanche gauche. Je lui tendis le gobelet pour qu'il le remplisse. Il alla verser de l'eau d'un thermos en acier et revint me faire boire. Je connus quelques secondes de panique lorsque je fouillais dans la poche de ma tunique à la recherche de l'automatique de papa qui n'était plus à ma ceinture. Il avait disparu. Mais Johnny me tendit l'arme sans un mot et je soupirai de soulagement. Je bus avidement.
« Et bébé ?»
demandai-je, espérant un instant que les images que j'avais gardées appartenaient à une horrible hallucination. Il secoua la tête.
Ils avaient des défenses auxquelles ni lui ni moi ne nous attendions. Son incursion a été magnifique, mais il ne pouvait pas battre les oméga-phages du centre. La moitié des opérateurs de l'infoplan ont ressenti les secousses de cette bataille. Bébé appartient déjà à la légende.
La légende de mon cul ! Fis-je avec un rire qui ressemblait étrangement au début d'un sanglot. Bébé est mort. Et il s'est sacrifié pour des prunes. Le bras de Johnny se resserra autour de ma taille.
Pas pour des prunes, Brown. Il a réussi son coup. Et il m'a transmis les données avant de mourir.
Je réussis à me redresser tant bien que mal et le dévisageai. Il ne semblait pas très différent de ce qu'il était avant. Les mêmes yeux tendres, la même chevelure, la même voix. Mais il y avait une différence subtile en profondeur.
« Tu as réussi le transfert ?» murmurai-je. « Tu es
humain ?»
fit John Keats en souriant.
« Oui, Brown, ou du moins aussi humain que peut l'être une créature forgée par le centre.
Mais tu te souviens quand même de moi et de bébé ? Que s'est-il passé ?»
« Je me souviens de tout. Et aussi de la première fois où j'ai ouvert l'omère de Chapman. Je me souviens des yeux de mon frère Tom la nuit où il a eu son hémorragie. Je me souviens de la voix douce de Severne lorsque j'étais trop faible pour ouvrir les yeux et faire face à mon propre destin. Et aussi de notre nuit sur la Piazza d'Espagne, lorsque mes lèvres ont rencontré les tiennes et que j'ai imaginé la joue de Fanny contre la mienne. Je n'ai rien oublié, Brown.
L'espace d'une seconde, la confusion m'emplit, puis je me sentis assez vexé. Mais il posa la main sur ma joue, et plus rien d'autre au monde n'exista pour moi. Je le comprenais. Pourquoi sommes-nous ici ? Demandai-je en fermant les yeux, la tête contre sa poitrine.
Je ne pouvais pas prendre le risque d'utiliser le réseau d'Istrans. Le technocentre aurait pu retrouver aussitôt notre trace. Nous aurions pu gagner le port spatial, mais tu n'étais pas en état de voyager. J'ai donc choisi les poisses.
Je hochai de nouveau la tête contre sa poitrine. Ils vont encore essayer d'avoir ta peau ?
Oui.
Est-ce que nous aurons sur le dos les flics locaux ? Ceux de l'hégémonie,
la police des transits. Je ne pense pas. Les seuls qui nous aient menacés jusqu'à présent sont les Gundas des deux bandes, plus quelques habitués des poisses.
J'ouvris les yeux. Que sont devenus les Gundas ?
Il y avait peut-être dans leur Hetz des truands et des tueurs à gages plus redoutables qu'eux, mais je n'avais jamais croisé leur chemin.
Johnny soupesa dans sa main l'automatique de papa et sourit. « Je ne me souviens de rien après bébé, » murmurai-je.
« Tu as été touché par le choc en retour des phages. Tu étais capable de marcher, mais on nous a regardé d'un drôle d'air quand nous avons traversé le quartier marchand.
Je vois ça d'ici. Parle-moi des découvertes de bébé. Pourquoi le technocentre est-il obsédé par Hyperion ?»«
Mange d'abord, » me dit Johnny. « Ça fait plus de 36 heures que tu n'as rien pris. »
Il traversa la caverne aux voûtes ruisselantes et revint avec une boîte auto-chauffante. C'était le menu de base des agro-holos. Bœuf cloné séché, puis réhydraté et réchauffé, pommes de terre hydroponiques, carottes ressemblant à des espèces de limaces marines. Jamais cela ne m'avait paru aussi bon. « Bien !» lui dis-je quand mon estomac fut calé. « Raconte maintenant !»
Le technocentre est divisé en trois courants depuis le début de son existence, commença Johnny. Les stables sont les IA de l'ancienne école, certaines datant même d'avant la grande erreur. Disons qu'au moins l'une d'elles est devenue sentiente durant la première ère de l'information. Leur principal argument est qu'un certain degré de symbiose entre l'humanité et le centre est indispensable. Ce sont elles qui ont lancé le projet Intelligence Ultime. Elles y voyaient un moyen d'éviter les décisions inconsidérées et de temporiser jusqu'à ce que toutes les variables puissent être prises en compte. Les volages sont celles qui ont provoqué la sécession, il y a trois siècles. Elles ont procédé à des études très poussées qui tendent à prouver que l'humanité a fait son temps et constitue maintenant une menace pour la survie du technocentre. Elles préconisent la terminaison immédiate et totale du genre humain.
« La terminaison ?» répétai-je. « Et elles auraient les moyens d'appliquer cette politique ?»«
À l'intérieur du Retz, oui. Non seulement les intelligences du centre constituent toute l'infrastructure de la société hégémonienne, mais elles conditionnent tous les déploiements de la force et même le fonctionnement des systèmes de sécurité de tous les arsenaux nucléaires et des armes au plasma. »
« Tu savais cela quand tu étais dans le centre ?»
Non. En tant que personnalité reconstituée, cybride et pseudo-poète, je n'étais qu'un marginal, une curiosité. Une créature inachevée qui pouvait se promener à sa guise dans le Retz, un peu comme on ouvre la porte au chat le soir, pour qu'il aille faire un tour dehors. Je ne soupçonnais même pas que les IA étaient divisées en trois camps.
Trois camps. Parle-moi du troisième. Et explique-moi ce que vient faire Hyperion dans tout ça.
Entre les stables et les volages, il y a les ultimistes. Cela fait cinq siècles que les ultimistes sont obsédés par le projet IU. La continuation ou l'extinction de la race humaine ne les intéresse que dans la mesure où elles ont une incidence sur le projet. À ce jour, les ultimistes ont joué un rôle plutôt modérateur. Elles sont les alliées objectivistes des stables parce que, dans leur perception des choses, les reconstitutions telles que l'ancienne Terre sont indispensables dans l'achèvement du projet IU. Récemment, cependant, l'affaire d'Hyperion les a incités à se rapprocher des positions des volages. Depuis l'exploration de cette planète, il y a quatre siècles, le technocentre est perplexe et tourmenté. Il est très vite apparu que les tombeaux du temps sont des artefacts lancés en arrière dans le temps à partir d'un point situé au moins 10 000 ans dans l'avenir de la galaxie. Le plus troublant, cependant, c'est que la formule de prédiction du centre n'a jamais pu intégrer la variable Hyperion. Pour bien comprendre tout cela, Brown, il faut que tu saches à quel point le technocentre est dépendant du système de prédiction. Déjà, sans l'intégration des données IU, le centre connaît les détails de l'avenir physique, humain et IA, avec une marge de certitude de 98,9995% sur une période de deux siècles au moins. L'Assemblée consultative des IA auprès de la Pangermie, avec ses vagues oracles delphiques, considérés comme tellement indispensables par les humains, est une farce en comparaison. Le technocentre distille au compte-gouttes ses révélations à l'hégémonie uniquement lorsque cela sert ses desseins. Quelquefois pour aider les volages, souvent dans l'intérêt des stables, mais toujours de manière à ne pas mécontenter les ultimistes. Hyperion représente une déchirure dans le tissu prédictif tout entier de l'existence même du technocentre. C'est l'ultime bâton dans les roues, la variable non intégrable. Aussi impossible que cela puisse paraître, Hyperion semble échapper à toutes les lois de la physique, de l'histoire, de la psychologie humaine et des arts prédictifs tels qu'ils sont pratiqués par le technocentre. Le résultat est qu'il y a deux avenirs, ou deux réalités différentes, si tu préfères. La première est celle où la malédiction du Gritch qui va bientôt s'abattre sur l'Eretz et sur toute l'humanité interstellaire constitue une arme contrôlée par le technocentre du futur, une première frappe rétroactive de la part des volages qui dominent de là-bas les millénaires à venir de la galaxie. L'autre réalité voit l'invasion du Gritch, la guerre interstellaire en préparation et les autres conséquences de l'ouverture des tombeaux du temps comme un coup porté à travers le temps par les humains et comme un sursaut final des extros, des ex-coloniaux et des autres minorités humaines ayant échappé au programme d'extinction mis en œuvre par les volages. L'eau tombait goutte à goutte sur les dalles luisantes. Quelque part dans les profondeurs des galeries voisines, j'entendis la sirène d'un cautériseur méca se réverbérer sur la roche et la céramique. Je m'adossai à la paroi et regardai longuement Johnny avant de murmurer. La guerre interstellaire. Les deux scénarios prévoient la guerre interstellaire. Oui. Elle est incontournable. Il n'y a aucune chance pour qu'il se trompe. Aucune. Ce qui se passe sur Hyperion représente une énigme. Mais les conséquences sur le Retz et ailleurs sont on ne peut plus claires. Les ultimistes se servent de cette certitude comme d'un argument de choc pour précipiter la prochaine phase de l'évolution du centre. Et que disent de nous les dossiers dérobés par bébé, Johnny? Il sourit, me caressa un instant la main mais ne la garda pas dans la sienne. Ils indiquent que je fais partie des facteurs inconnus d'Hyperion. Le fait de créer un hybride de Kits a représenté pour eux un terrible risque. Seul mon manque apparent d'efficacité en tant qu'analogue de Kits a incité les stables à me conserver. Lorsque j'ai décidé de me rendre sur Hyperion, les volages m'ont assassiné, avec l'intention très claire de m'éliminer totalement en tant qu'IA si mon hybride décidait la même chose une deuxième fois. C'est ce qui s'est passé. Qu'ont-ils fait? Ils ont échoué. Dans leur arrogance infinie, ceux du technocentre ont négligé deux détails. Le premier, c'est que j'avais la possibilité d'investir toute ma conscience dans mon hybride et de transformer ainsi la nature de l'analogue de Kits. Le deuxième, c'est que je m'adresserai à toi. Moi? Il me prit la main. Oui, Brown. Il semble que tu fasses aussi partie des inconnus d'Hyperion. Je secouai la tête, sentant au même instant comme un fourmillement du cuir chevelu juste au-dessus et en arrière de l'oreille gauche. Je portai la main à cet endroit, en m'attendant plus ou moins à y trouver des traces de la bagarre dans l'infoplan. Mes doigts rencontrèrent la pastille de plastique d'une dérivation neurale. Je retirai vivement mon autre main de celle de Johnny et le regardai, saisi d'horreur. Il avait profité de mon inconscience pour me câbler. Il écarta les mains, les paumes vers moi. Je n'ai pas pu faire autrement, Brown. Ce sera peut-être indispensable pour notre survie à tous les deux. Je serrai le poing. Sale fils de pute dégénéré! Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une interface directe? Tu m'as menti, salaud! Ce n'est pas pour le centre, me dit Johnny d'une voix douce. C'est pour moi. Pour toi? Mon poing vibrait du plaisir anticipé de s'écraser sur sa belle gueule de clone. « Pour toi ? » répétai-je d'une voix amère. Tu oublies que tu es devenu humain ?
Je ne l'oublie pas. Mais certaines de mes fonctions hybrides demeurent. Tu te souviens du jour où je t'ai pris la main pour te conduire dans l'infosphère ?
Je ne retournerai pas dans ta foutue infosphère !
Répliquai-je en le défiant du regard. Non. Et moi non plus. Mais il est possible que j'aie besoin de te transmettre une quantité fabuleuse de données en un temps très court. Je t'ai conduite la nuit dernière chez une praticienne clandestine des poisses. Elle t'a implanté un disque de Schrön.
Pourquoi ?
Les boucles de Schrön étaient de minuscules objets de la taille d'un ongle, extrêmement coûteux. Elles contenaient un très grand nombre de mémoires bulles, dont chacune possédait une capacité de stockage quasi infinie. Elles ne pouvaient faire l'objet d'un accès de la part de leur porteur biologique et servaient donc uniquement de boîte aux lettres. Un homme ou une femme pouvait, grâce à ces boucles de Schrön, transporter des personnalités IA ou une infosphère planétaire tout entière. N'importe quel foutu chien pouvait faire la même chose d'ailleurs, pour autant que je le sache.
Pourquoi ?
Répétai-je, soupçonnant que Johnny se faisait manipuler par des forces obscures qui le forçaient à se servir de moi comme d'une boîte aux lettres. Il se rapprocha de moi et me prit le poing dans ses mains.
Tu dois me faire confiance, Brown.
Je ne crois pas que j'avais jamais fait confiance à qui que ce fût depuis l'époque où papa s'est fait sauter la cervelle, il y a 20 ans, et où maman s'est égoïstement retirée du monde. Je n'avais surtout aucune bonne raison de faire confiance à Johnny en ce moment. J'ouvris cependant le poing et laissai ma main dans les siennes.
C'est mieux comme ça, me dit-il. Finis de manger maintenant. Nous allons travailler à sauver notre peau, si c'est possible.
Les armes et la drogue, c'étaient les deux choses les plus faciles à acheter dans la ruche des poisses. Nous consacrâmes le reste des réserves considérables de marques de contrebande que possédait Johnny à nous armer. Le soir venu, nous portions tous les deux un gilet de protection en polytane renforcé. Johnny avait un casque de Gunda d'un noir réfléchissant, et moi un masque de commandement des surplus de la force. Les gants de force de Johnny étaient rouges vifs et massifs. Je portais des gantelets à osmose à bordure coupante. Johnny avait acheté un clap extra capturé sur Brescia et il avait passé un bâton laser à sa ceinture. Pour ma part, en plus de l'automatique de mon père, j'avais maintenant un Steiner Jean miniature monté sur un gyrosupport fixé à ma taille. Couplé à mon viseur central, il me laissait les deux mains libres pendant son utilisation. Nous nous regardâmes un bon moment avec tout cet attirail. Puis nous éclatâmes de rire. Il y eut ensuite un long silence. Es-tu bien sûr que le temple Grichtek de Lusus soit notre meilleure chance ? Lui demandai-je au moins pour la troisième fois.
Nous ne pouvons pas nous distransporter, m'expliqua Johnny. Le technocentre n'aurait qu'à simuler une panne et nous serions finis. Nous ne pouvons même pas prendre un ascenseur pour gagner les niveaux inférieurs. Notre meilleure chance de rejoindre le temple est de descendre directement l'avenue Marchande.
Mais est-ce que les gens du temple voudront de nous ?
Il haussa les épaules en un geste qui le faisait étrangement ressembler à un insecte dans sa carapace de combat. La voix qui sortit de son casque de Gunda était métallique.
Ce sont les seuls qui aient un intérêt quelconque à nous voir survivre. Les seuls qui aient suffisamment de poids politique pour nous protéger de l'hégémonie tout en organisant notre transfert sur Hyperion.
Je remontai ma visière. Meina Gladstone m'a affirmé qu'aucun pèlerinage ne serait plus autorisé sur Hyperion. La surface polie du casque oscilla d'avant en arrière.
Meina Gladstone peut aller se faire foutre, me dit mon poète d'amant.
Je respirai un grand coup et marchai jusqu'à l'entrée de notre caverne, notre dernier sanctuaire. Johnny me rejoignit. Nos armures se frottèrent.
Prête, Brown ?
J'acquiesçai d'un hochement de tête, mis le Steiner Jean miniature en position sur son pivot et me préparai à sortir. Johnny me retint par la manche.
« Je t'aime, Brown. »
Je hochai de nouveau la tête, toujours coriace. J'oubliai simplement que ma visière était toujours levée et qu'il pouvait voir mes larmes. Le rucher est en activité 28 heures sur 28. Par tradition, cependant, la troisième faction est la plus tranquille. Celle où les gens se déplacent le moins quand ils n'y sont pas obligés. Nous aurions eu de meilleures chances pendant les heures de pointe de la première faction, où les couloirs de piétons sont particulièrement encombrés, Mais il y aurait eu une véritable hécatombe parmi la foule si les Gundas et les tueurs nous avaient attendus. Il nous fallut un peu plus de 3 heures pour grimper jusqu'à l'avenue. Il n'y avait pas d'escalier direct, mais une série interminable de galeries d'entretien et de puits d'accès abandonnés depuis les émeutes de Ludit qui remontaient à 80 ans au moins. Les marches finales étaient rouillées à un point tel que nous redoutions de passer au travers si nous ne faisions pas attention. Nous ressortîmes dans un passage réservé aux livraisons, à moins de 500 mètres du temple.
« Je n'arrive pas à croire que ce soit si facile »,
chuchotai-je dans le communicateur de mon casque.
« Ils doivent surtout nous attendre au port spatial et aux abords des complexes d'Istrans privés. »
Nous empruntâmes le couloir pour piétons le moins exposé de l'avenue, à 30 mètres au-dessous du premier niveau marchand et à 400 mètres au-dessous des verrières du toit. Le temple Grichtek était un édifice isolé de type complexe qui dominait tout le reste du quartier. Quelques passants attardés nous regardèrent à la dérobée et pressèrent le pas pour nous éviter. Je ne doutais pas que quelqu'un fût déjà en train d'appeler la police, mais j'estimais que nous avions encore largement le temps avant qu'ils arrivent. Un groupe de voyous des rues peinturlurées fit soudain irruption d'une cage d'ascenseur en poussant des cris et des glapissements aigus. Ils avaient des lames pulsantes, des chaînes et des gants de force. Pris au dépourvu, Johnny leur fit face avec son clap et leur envoya une dizaine de rayons de visée laser. Mon canon miniature vrombit sur son pivot, automatiquement braqué sur une succession de cibles, à mesure que mon regard allait de l'une à l'autre. La bande de gamins s'arrêta net sur sa lancée, leva les mains et recula comme un seul homme, les yeux agrandis, dans la cage d'ascenseur où elle disparut comme elle était venue. Je regardais Johnny. Un miroir noir me renvoya mon regard. Aucun de nous deux n'avait envie de rire. Nous traversâmes l'espace découvert qui nous séparait de l'allée marchande menant au nord. Les quelques piétons présents coururent s'abriter sous les devantures des magasins. Nous étions à moins de 100 mètres de l'escalier du temple. J'entendais littéralement battre mon cœur dans les écouteurs de mon casque. Plus que 50 mètres. Comme s'il nous attendait, un acolyte ou un prêtre quelconque apparut au pied de la porte du temple, haute de 10 mètres, et nous regarda courir. 30 mètres. Si quelqu'un avait dû nous intercepter, il l'aurait fait avant. Je me tournai vers Johnny pour lui dire quelque chose de comique. Au même moment, une vingtaine de rayons et moitié autant de projectiles nous atteignirent. La couche extérieure de nos armures en polytitane explosa vers l'extérieur, déviant la plus grande partie de l'énergie. La surface miroir qui se trouvait derrière réfléchit une grande quantité de lumière létale. Mais une grande quantité seulement. Johnny fut déséquilibré par l'impact. Je mis un genou à terre et laissai le canon miniature trouver la source laser. 10e étage de la ruche résidentielle qui nous faisait face. Ma visière s'opacifia. Mon armure laissa échapper un nuage de gaz réfléchissant. Le canon miniature émit exactement le bruit que font les tronçonneuses dans les holofilms historiques. 10 étages plus haut, tout un pan de mur et de balcon se désintégra dans un nuage de fléchettes explosives et de balles anti-blindage. 3 gros projectiles me frappèrent dans le dos. J'atterris sur les paumes des mains, fit taire le canon miniature et pivotait. Il y en avait au moins une douzaine à chaque niveau. Il se déplaçait silencieusement, rapidement, avec une précision chorégraphique de combat. John était à genoux et actionnait son clap par salve de lumière parfaitement orchestrée à travers l'arc-en-ciel adverse pour percer les défenses réfléchissantes. L'une des silhouettes en train de courir prit feu, tandis que la devanture du magasin derrière elle se transformait en verre et en plastique fondu, qui giclait à 15 mètres de là sur l'avenue marchande en contrebas. 2 autres passèrent la tête au-dessus de la rampe et je les fis reculer précipitamment à l'aide d'une rafale de mon canon miniature. Un glisseur descendit soudain du toit, ses répulseurs peinant tandis qu'il faisait du slalom entre les pylônes. Des roquettes s'écrasèrent sur le béton entre Johnny et moi. Les devantures des magasins vomirent sur nous 1 milliard d'échardes de verre. Je tournai les yeux, clignai 2 fois, ajustai et tirai. Le glisseur fit une embardée sur la gauche et heurta un escalier mécanique chargé d'une dizaine de passants épouvantés, puis il s'écrasa en une masse de métal tordu et de munitions qui explosèrent. Je vis l'un des passants, entouré de flammes, sauter vers le rez-de-chaussée de la ruche, 80 mètres plus bas.
« Sur ta gauche !»
s'écria Johnny dans le communicateur à faisceau étroit. 4 hommes en armure de combat venaient de sauter d'un étage supérieur à l'aide de paquetages de lévitation personnelle. L'armure caméléon polymérisée avait du mal à s'accorder à l'arrière-plan continuellement changeant et ne réussissait qu'à transformer chaque shooter en un brillant kaléidoscope de reflets irisés. L'un d'eux pénétra dans le champ de mon canon miniature afin de me neutraliser, tandis que les trois autres s'occupaient de Johnny. Il s'approcha avec une lame pulsante, style ghetto. Je le laissais érafler mon armure, sachant qu'il atteindrait la chair de l'avant-bras, mais j'avais besoin de cette seconde supplémentaire. Il me la donna amplement. Je le liquidai d'un revers de mon gantelet et braquai mon canon sur les trois autres. Leur armure se rigidifia aussitôt. Je me servis du canon pour les repousser comme quelqu'un qui arrose un trottoir encombré de détritus. Seul l'un d'eux réussit à retrouver son équilibre avant que je les fasse basculer derrière la corniche où il s'était posé. Johnny était à terre. Une partie de son armure avait fondu. Je sentis une odeur de chair grillée, mais ne décelai aucune blessure mortelle. Je me baissai pour le soulever.
« Laisse-moi, Brown! Cours! Prends l'escalier !»
La communication ne passait presque plus.
« Va te faire foutre !»
lui dis-je en passant mon bras gauche autour de lui pour le soutenir, tout en laissant au canon la place d'évoluer.
« Je suis toujours payé pour te servir de garde du corps !»
Il nous mitraillait de partout. Des deux façades de la ruche, des verrières et des galeries marchandes à chaque niveau. Je dénombrais au moins 20 cadavres dans les passages pour piétons. La moitié étaient des civils au costume voyant. Les cerveaux moteurs de la jambe gauche de mon armure tournaient à vide. La jambe raide, laborieusement, je nous fis gagner encore une dizaine de mètres en direction de l'escalier du temple. Plusieurs dizaines de prêtres Grichtek nous regardaient du haut des marches, apparemment insouciants de la fusillade qui les entourait.
« Attention ! Là-haut !»
Je pivotai, visai et fis feu dans un même mouvement. Je compris au bruit qu'il fit après la première giclée que le canon était vide et vis le deuxième glisseur lâcher ses missiles un instant avant de se transformer en un millier de fragments épars de ferraille et de chair déchirée qui volaient de tous les côtés. Je laissai tomber lourdement Johnny sur la chaussée et me couchai sur lui dans l'espoir d'abriter de mon propre corps sa chair exposée. Les missiles explosèrent en même temps, plusieurs dans l'air et deux au moins après s'être enfoncés dans le sol. Johnny et moi fûmes soulevés et projetés dans les airs à une quinzaine de mètres au moins au-dessus du passage incliné. Ce fut une bonne chose au demeurant, car la bande de composite et de ferro-béton où nous nous trouvions l'instant d'avant prit feu, se cloqua, s'affaissa et se détacha pour se fracasser sur la chaussée en flammes en contrebas. Il se forma ainsi un fossé qui nous séparait de la plus grande partie des hommes à pied qui en avaient après nous. Je me relevai, me débarrassai du mini-canon devenu inutile, extirpai de mon armure quelques échardes plutôt gênantes et soulevai Johnny dans mes bras. Son casque lui avait été arraché. Son visage était mal en point. Le sang coulait à travers une vingtaine de trous de son armure. Son bras droit et son pied gauche étaient en bouillie. Je commençais à gravir avec lui les marches du temple. Des sirènes retentissaient de toutes parts. Des glisseurs de la police tournaient dans tout l'espace aérien de l'avenue marchande. Les Gundas postés dans les galeries hautes et aux extrémités du passage effondré coururent se mettre à couvert. Deux des commandos qui étaient descendus avec leur paquetage de lévitation se lancèrent à ma poursuite sur les marches. Je ne me retournais pas. Il fallait que je soulève ma jambe raide et inutile à chaque marche. Je savais que j'avais une brûlure sérieuse dans le dos et aux côtés, et des éclats logés un peu partout. Les glisseurs décrivirent des cercles en rugissant, mais évitèrent les marches du temple. Des fusillades retentissaient partout dans l'avenue. J'entendis le bruit des brodequins de métal qui se rapprochaient rapidement derrière moi. Je réussis à grimper 3 marches de plus. 20 marches plus haut, à une distance qui paraissait impossible, l'évêque se tenait parmi une centaine de prêtres du temple. J'escaladai une nouvelle marche. Je regardais Johnny. L'un de ses yeux était encore ouvert, levé vers moi. L'autre était gonflé de sang et de tissus tuméfiés. « Ça ira !» chuchotai-je, prenant pour la première fois conscience d'avoir perdu mon propre casque. « Tiens bon, nous y sommes presque !» Je gravis une autre marche. Les deux hommes en armure de combat noire et brillante me barraient le chemin. Tous deux avaient levé les visières rainurées de leur casque et ils me regardaient d'un air terrible.
« Lâche-le, salope, et tu auras peut-être une chance de vivre !»
Je hochai lentement la tête d'un air las, trop épuisé pour faire un pas de plus ou même déposer sur les marches blanches mon fardeau qui perdait tout son sang.
« Dépose cet enfoiré, je te dis, ou bien !»
Je les tuai net tous les deux. Le premier d'un projectile dans l'œil gauche, le second dans l'œil droit, sans même avancer l'automatique de papa que je dissimulais sous le corps de Johnny. Ils tombèrent sans un cri. Je réussis à gravir une nouvelle marche, puis une autre encore. Je me reposai quelques secondes avant de soulever ma jambe gauche pour continuer. En haut de l'escalier, le groupe de prêtres en robe rouge et noire s'écarta pour me laisser passer. Le portail était très haut et très sombre. Je ne me retournai pas, mais je savais, d'après le bruit qui montait jusqu'à nous de l'avenue, que la foule était devenue énorme. L'évêque franchit le seuil à mes côtés, et nous nous retrouvâmes dans la pénombre. Je déposai Johnny sur les dalles de pierre froide. Il y eut des froissements de robe autour de nous. J'ôtai mon armure là où la chose était encore possible. Puis je tirai sur celle de Johnny. Elle était soudée à la chair en plusieurs endroits. De ma main valide, j'effleurai sa joue brûlée. « Je suis vraiment... » Sa tête remua légèrement et son œil s'entr'ouvrit. Il souleva sa main gauche nue pour me toucher la joue, les cheveux, la nuque. « Fanny !» C'est à ce moment-là que je le sentis mourir. Je perçus également le choc de la décharge neurale au moment où ses doigts trouvaient l'orifice de dérivation. La chaleur blanche de la connexion de la boucle de Schrön, représentant tout ce que Johnny Keats avait été ou serait jamais, explosa en moi presque, je dis presque, comme son orgasme de l'avant-veille, avec ensuite le même silence et la même sensation de communion et de plénitude. Je posai doucement sa tête par terre et laissai les acolytes l'emporter pour le montrer à la foule, aux autorités et à ceux qui attendaient de savoir. Puis je les laissai m'emporter. Je passai 15 jours dans une crèche de convalescence du temple Grichtek. Mes brûlures se cicatrisèrent, mes cicatrices furent rabotées, le métal fut extrait, la peau greffée, la chair remodelée, les nerfs recablés. Mais je souffre toujours. Tout le monde, à l'exception des prêtres Grichtek, m'oublia. Le technocentre s'assura que Johnny était bien mort, que son passage dans l'infoplan n'avait laissé aucune trace et que son cybride était détruit. Les autorités prirent note de ma déposition, me retirèrent ma licence et étouffèrent l'affaire comme elles le purent. La presse du Retz raconta qu'un règlement de compte entre gangs du Rucher de la Poisse avait mis le quartier marchand à feu et à sang. De nombreux membres des gangs avaient été tués ainsi que des passants innocents. La police avait maîtrisé tout le monde. Une semaine avant l'annonce que l'hégémonie autoriserait l'Yggdrasil à emporter des pèlerins dans la zone de guerre aux alentours d'Hyperion, j'utilisais l'une des portes distances du temple pour me rendre sur le vecteur Renaissance, où je passais une heure toute seule dans la section des archives. Les parchemins étaient dans une presse sous vide, et je ne pouvais pas les toucher, mais c'était bien l'écriture de Johnny, celle que je connaissais. Le papier était racorni et jauni par le temps. Il y avait 2 fragments. Le premier disait « Ce jour a disparu, et avec lui toutes ses délices. Délices de la voix, délices des lèvres, douce main et gorge plus douce encore, souffle tiède, murmure d'extase, doux chuchotement, éclat des yeux, forme parfaite et taille langoureuse. Faner la fleur et les promesses de ses charmants boutons. Faner la belle image échappée à mes yeux. Faner la forme belle échappée à mes bras. Faner la voix, la chaleur, la blancheur et le paradis. Tout s'est évanoui trop tôt à la nuit close, au crépuscule, quand le jour, ou plutôt la nuit de fête commence, de l'amour aux courtines embaumées, à tisser la trame d'ombre ou cacher les plaisirs. Mais, comme j'ai lu d'un bout à l'autre aujourd'hui le missel de l'amour, il me laissera du moins dormir en me voyant qui jeûne et prie. Le second fragment était d'une écriture plus large, sur du papier plus grossier, comme si les mots avaient été jetés à la hâte sur une feuille de calepin. Ma main que voici vivante, chaude et capable d'étreindre passionnément, viendrait, si elle était raidie et emprisonnée au silence glacial du tombeau, à ce point hanter tes jours et transir les rêves de tes nuits, que tu voudrais pouvoir exprimer de ton propre cœur jusqu'à la dernière goutte de sang, pour que dans mes veines le flot rouge de nouveau fasse couler la vie et que ta conscience s'apaise. Regarde, la voici. Je l'attends vers toi. Je suis enceinte. Je crois que Johnny le savait, mais je n'en suis pas certaine. Et je suis doublement enceinte. Du bébé de Johnny, mais aussi de son souvenir tel qu'il demeure gravé dans la boucle de Schrön. J'ignore si les deux étaient prédestinés à aller ensemble. L'enfant ne naîtra que dans plusieurs mois, mais je pense affronter le Gritsch dans quelques jours seulement. Je me souviens très bien des minutes qui ont suivi les instants où le corps meurtri de Johnny a été exhibé devant la foule et où les prêtres m'ont emmené pour me soigner. Ils étaient tous là dans la pénombre, des centaines de prêtres, d'acolytes, d'assesseurs, d'exorcistes et de fidèles. Et dans cette obscurité teintée de rouge, sous la statue mobile du Gritsch, leurs chants montaient jusqu'aux voûtes gothiques où ils se réverbéraient. En voici à peu près les paroles. Béni soit-elle. Béni soit la mère de notre salut. Béni soit l'instrument de notre expiation. Béni soit l'épouse de notre création. Béni soit-elle. J'étais affreusement blessé et en état de choc. Je ne comprenais pas le sens de ce qu'il chantait. Je ne le comprends toujours pas. Mais je sais que lorsque le moment sera venu d'affronter le Gritsch, Johnny et moi nous l'affronterons ensemble.
La nuit était tombée depuis longtemps. La cabine du téléphérique naviguait entre les étoiles et la glace. Le groupe demeurait silencieux. Les seuls bruits que l'on entendait étaient les crissements du câble. Au bout d'un long moment, Lennart Hoyt s'adressa à Braun Lamia.
« Vous aussi, portez votre cruciforme. »
Elle regarda le prêtre sans répondre. Le colonel Cassatt se pencha à son tour vers elle. « À votre avis, Ed Mastin était-il le Templier qui a parlé à Johnny ?»«
C'est possible, »
dit-elle.
« Mais je n'ai jamais découvert la vérité. »
Sans sourciller, Cassatt demanda. « Est-ce vous qui avez tué Ed Mastin ?»
« Non. »
Martin Silenus s'étira, puis bâilla.
« Il nous reste quelques heures avant l'aube, » dit-il. « Personne n'a envie de dormir un peu. »
Il y eut plusieurs hochements de tête. « Je reste monté la garde, » déclara Fedman Cassad. « Je ne suis pas fatigué. »«
Je vous tiens compagnie, » lui dit le consul.
« Je vais faire chauffer du café pour le thermos, »
proposa Braun Lamia. Lorsque ceux qui le désiraient se furent couchés, tandis que le bébé Rachel gazouillait tout doucement dans son sommeil, les trois autres s'assirent aux fenêtres et regardèrent brûler les étoiles, froides et lointaines, dans les hautes cimes de la nuit.